puis de l'autre. J'ai même cru que cette vieille bique allait inspecter mes dents. Mais elle a juste attrapé une mèche de mes cheveux entre ses doigts, dubitative. Je ressemble à papa, et elle s'est sûrement dit que ça ne présageait rien de bon. Qu'est-ce qu'on va faire de toi, ma petite ? Je lui ai souri gentiment. Ne t'inquiète pas, ma vieille. Je vais très bien me débrouiller toute seule. En fait, j'ai rien répondu. On ne mord pas le portefeuille qui vous nourrit. Les jours qui ont suivi mon arrivée, Brooke s'est occupée de moi tout le temps. Elle me lavait, elle m'habillait comme elle pouvait avec les vêtements de ses garçons en s'excusant de ne pas avoir de jolies robes. Elle n'avait pas de vêtements de fille parce qu'elle n'avait pas de fille. Et j'avais beau être une enfant, j'ai compris qu'une fille, elle aurait bien aimé en avoir une plutôt que des garçons qui passaient leur temps à hurler, se taper dessus et se mordre. On aurait dit des chiens enragés. En plus, Brooke était enceinte, et je me demandais bien où elle allait caser un quatrième gosse dans une maison si petite. Elle avait l'air beaucoup plus jeune que maman, mais avec des cernes sous les yeux, des cicatrices d'acné et les cheveux ternes. Son corps était mince, arrondi uniquement au niveau du ventre. Elle ressemblait à une branche avec une sorte de champignon parasite qui aurait poussé sur elle. Elle savait pas le sexe du bébé, mais elle espérait que ce soit une fille. Et du coup, elle avait vu comme un signe le fait que je sois apparue comme ça, dans une barque, juste avant Noël. Elle me racontait tout ça en me coiffant les cheveux, en mettant du vernis rose sur mes ongles alors que maman disait que c'était pas pour les petites filles. Brooke ne me posait pas beaucoup de questions sur l'endroit d'où je venais, ou sur le nom de mes parents. Elle n'avait peut-être pas vraiment envie que je reparte. Et ça m'allait bien, parce que je savais toujours pas si je voulais qu'on me retrouve. Nous restions toutes les deux au chaud à l'intérieur avec le petit, pendant que les deux aînés traînaient dehors malgré le froid, à essayer de piéger des rongeurs ou de tuer des écureuils au lance-pierre. Le plus grand venait agiter leurs cadavres sous mon nez pour me dégoûter, mais je m'en foutais en réalité des animaux morts. On en avait déjà vu avec Léo, il n'y avait pas de quoi tourner de l'œil. Plus les jours passaient, plus je me disais que ma famille allait bien finir par s'inquiéter, et c'était une idée qui me plaisait. J'étais câlinée, gâtée, même si Brooke ne possédait presque rien. Tout se passait bien jusqu'à ce que Hank rentre à la maison. Il faut toujours qu'il y ait un type pour vous gâcher la vie. C'était en décembre dernier, il y a presque un an jour pour jour. Léo m'avait demandé si elle pouvait passer la nuit chez moi, comme quand nous étions petites et que nous allions tous les week-ends d'une maison à l'autre, avant la crise, avant que son père perde tout, avant cette nuit d'hiver qui avait tout changé. Après, nous nous retrouvions tous les matins au croisement de deux routes et nous nous quittions le soir au même endroit. C'était la frontière invisible entre son monde et le mien. Je lui avais dit que ça ne posait pas de problème qu'elle dorme à la maison, même si je me demandais ce que ça me ferait de les voir ensemble. Lui au bout de la table et elle à côté, à la place de l'invité. Je voulais le voir la regarder. Elle qui, comme ma mère, ne savait rien. C'était drôle de me dire qu'à table, nous étions deux à connaître la vérité et deux à l'ignorer. Nous avons dîné comme avant, quand Léo venait avec ou sans ses parents, dans la salle à manger. Ma mère avait sorti une jolie nappe, sa vaisselle Wedgwood et des verres en cristal. Le grand jeu pour compenser 9 ans d'indifférence. Papa avait mené la conversation en interrogeant Léo sur le lycée, sur ses notes, sur ce qu'elle comptait faire plus tard. Il évitait les sujets qui fâchent, la situation de Seth, le manque d'argent. Lorsqu'elle avait répondu qu'elle espérait aller un jour en Italie, il était resté figé quelques secondes, sa fourchette en l'air, immobile devant sa bouche ouverte. Le souvenir de Livia était toujours vivant. Je l'ai observé se dépêtrer avec cette idée de ce qui avait disparu en me demandant si cette grossesse avait été un accident ou s'ils avaient voulu un enfant ensemble, s'il avait tout de suite su qu'il était le père. S'il lui avait demandé d'avorter, s'il l'aimait tout simplement. Tout ce qui n'est pas dit n'existe pas. La seule chose qui existe, c'est une demi-sœur qui ne sait même pas qu'elle en est une, et un secret qui vous a sorti de votre enfance. Quand j'en ai eu assez de ce spectacle, nous sommes montés dans ma chambre. Léo n'était pas revenu depuis des années, et elle en a fait le tour lentement, en contemplant ce qui restait de nos souvenirs d'enfant. En caressant des objets comme si elle reprenait contact avec eux, et en souriant parfois devant des photos de nous deux. Elle est arrivée jusqu'à moi, elle m'a regardée fixement et j'ai eu